Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est La France bouge. Chaque jour, nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Europe 1. Le but, mettre en avant toutes celles et ceux qui ont des idées, des envies, qui font des paris fous, des talents qui font bouger les lignes et qui construisent déjà le monde de demain. À mes côtés, en studio, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à tous. Allez, on va aller faire nos courses tous ensemble aujourd'hui. Direction notamment la Biocoop. Ce sont les premiers ou quasiment avoir cru au bio en France. Comment consomme-t-on depuis le déconfinement ? Moins mais mieux manger. Est-ce que c'est véritablement un mythe ? Comment faire pour avoir plus de bio made in France ? Et puis comment résister face aux Carrefour et autres qui arrivent tambour battant sur ce marché du bio ? Voyez, on ne demande pas de questions à Elisabeth pour Pierrick Deron. C'est le président de la Biocoop. Il est avec nous jusqu'à 14h.
À la une en effet aujourd'hui, Emmanuel. La consommation post-confinement. Dans cette France bouge, on se met tous ensemble à la table du petit déjeuner et à celle du goûter. Notre saga du jour, brioche pasquier. Depuis 1974, ils font le bonheur des petits et des grands. Rendez-vous à 13h30.
Allez, c'est presque le temps d'un bon échange de tennis. 1 minute 30 pour tenter de vous convaincre et de convaincre notre grand patron du jour. Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur relève le défi. Aujourd'hui, Slice, une application pour les fans de tennis, sera sur le court de La France bouge. Ce sera aux alentours de 13h40.
Et puis, il n'y a pas que le tennis, il y a aussi le vélo dans Demain au travail. Décryptage sur de nouvelles façons de travailler. Gros plan sur une société qui a équipé ses salariés de vélos électriques. Vous en saurez plus vers 13h50.
Allez, bienvenue dans La France bouge. On est ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Alors, le bio a-t-il passé l'épreuve du confinement ? Plus qu'on ne le croit, le bio a fait partie des effets secondaires positifs. Et oui, il y en a quand même quelques-uns de cette crise. Et certains d'entre nous auraient même eu le déclic du bio pendant cette période de confinement.
Et bonjour Pierrick Deron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de Biocoop. On dit de Biocoop ou de la Biocoop ?
De Biocoop.
De Biocoop, hein, c'est ça. Alors, Biocoop est né en 1986. Le réseau est l'un des pionniers dans le monde du bio. Biocoop, ce sont plus de 630 points de vente aujourd'hui. Alors il paraît que nous avons mieux mangé, notamment mangé davantage de bio pendant le confinement. Confirmez-vous, oui ou non, cette information ?
Oui, je confirme, et pas seulement chez Biocoop, aussi en grande distribution et dans les réseaux, tous les réseaux spécialisés, il y a eu à peu près 30% de clients bio en plus. Et on a vu une augmentation de l'activité assez forte, alors qui a été liée au bio, mais aussi à la proximité. Et donc le modèle Biocoop a pu aussi sortir un peu son épingle du jeu à cet endroit-là, parce qu'on est un réseau de magasins indépendants sur les territoires et les clients ont plébiscité la proximité et les engagements.
Est-ce qu'aujourd'hui, cette tendance se poursuit, Pierrick Deron ?
Alors, la tendance post-confinement est revenue un peu plus à la normale. Mais elle se poursuit. En fait, la crise est un révélateur, selon moi. Le confinement et la crise Covid est un révélateur des différentes choses qu'on pouvait observer déjà avant la crise. Donc, à la fois la bio, le mieux manger, le lien à la production, et aussi le e-commerce, Internet et les différents modèles de consommation.
Alors, une hausse de 30%, ça veut dire que vous avez recruté de nouveaux consommateurs ou c'est en termes d'achat, le panier moyen a augmenté et donc on a acheté beaucoup plus ?
Bah les deux.
C'est une bonne nouvelle. Hein.
C'est très bien. On a recruté de nouveaux consommateurs et on a aussi vu une baisse sensible de la fréquentation. Les gens sortaient moins de chez eux, se déplacent moins. Et encore aujourd'hui, on a une baisse de la fréquentation. Par contre, quand ils se déplacent, ils consomment un peu plus, ils achètent un peu plus.
Et quels sont les produits que l'on aurait commencé à découvrir pendant cette période de confinement, ces nouveaux clients qui sont venus ? Qu'est-ce qui tire son épingle du jeu encore aujourd'hui après le confinement ?
Alors, on est revenu un peu à la normale. Donc, ce qui tire son épingle du jeu, c'est le frais. De toute façon, l'épicerie, le frais, les fruits et légumes, ça a été assez significatif, la croissance sur ces rayons-là. La viande, on a vu aussi beaucoup d'augmentation de viande. Alors, c'était peut-être lié certainement à la fermeture des restaurants. Les gens mangent plutôt de la viande le midi hors de chez eux. Et aujourd'hui, on voit revenir, parce que le vrac, la consommation de vrac, c'était un peu réduite. On voit revenir une consommation vrac.
Le vrac, malgré la Covid, avec les gestes barrières ?
Bah, en fait, déjà, les magasins se sont organisés, donc on a mis plein de dispositifs qui protègent. Et ensuite, il y a des études qui sont sorties et qui montrent que le vrac n'est pas plus sensible au Covid qu'un paquet emballé en plastique qui est trimballé de main à main de toute façon.
Est-ce que pour vous, ça a été un élément indispensable pour faire entrer la bio ? Parce que je crois que du côté de Biocoop, on est très puriste sur le fait de dire la bio, mais de faire entrer la bio encore plus dans les foyers des uns et des autres. On sait que la progression était déjà énorme, mais est-ce que ça a permis une accélération qui aurait mis sûrement plus de temps sinon ?
Bah, ce qui est intéressant à constater pour Biocoop, c'est que en fait, le projet de Biocoop qui est porté depuis 35 ans est aujourd'hui aligné avec les attentes de la société et des consommateurs. Et la période de confinement, les commerces alimentaires étaient les seuls lieux de consommation. Et donc, les gens se sont fait plaisir et ils ont repensé leur consommation donc par le consommer moins mais mieux, la production, c'est-à-dire eux-mêmes cuisiner, etc. Et donc ça, c'est totalement le projet de Biocoop. Et ensuite, il y a le sens donné à ces achats, le projet de société qui a derrière son achat, donc le lien à la production locale, le lien au producteur et tous les éléments de solidarité.
Et ça, vos clients vous le disent.
Les clients nous le disent et surtout, ils ont perçu que on n'est pas devenu solidaire au moment du confinement. Notre projet coopératif est par nature solidaire, c'est-à-dire qu'il intègre dans la gouvernance, toutes les parties prenantes de la filière du producteur au consommateur. Et donc, toutes ces questions-là, on se les pose depuis 35 ans.
Oui.
Et là, ça a été juste un moyen de montrer à tous les consommateurs et à la société que notre projet.
Vous, finalement, vous êtes dans la définition, on dirait, la plus noble et la plus pure du bio. Hein, une forme de projet coopératif, consommer bio, local. Mais le bio, ça reste quand même un petit peu marginal dans l'achat, hein, parce que ça, c'est encore 6%, ça correspond à 6% environ de nos paniers. Après ce confinement, après tout ce que vous avez constaté, quel est le potentiel de hausse?
Alors déjà, je vais préciser que Biocoop, on n'est pas parfait.
Non, mais
on
êtes
a un
dans...
projet ambitieux.
Vous inquiétez pas, on va voir tout à l'heure les failles. Hein. On commence gentiment, vous savez.
Non, mais on a un projet qui se veut cohérent. J'ai perdu votre question. Mais...
Et le bio, ça reste quand même très marginal. Ça correspond environ 6% de nos paniers. Est-ce que vous avez une estimation de la potentielle hausse ? Est-ce qu'on va continuer ? C'est-à-dire, ce qu'on a commencé pendant le confinement, est-ce que ça va se poursuivre ? Ou finalement, c'était juste une histoire d'opportunité et du moment ?
Moi, je pense que la tendance est assez lourde. Après, 100% de la consommation ne sera pas bio demain. On estime à 10-12% du marché en bio. Ce qui est intéressant, en tout cas, et ce qui est aussi l'objectif de Biocoop, c'est que la bio et la certification bio tire à la fois l'alimentation mais aussi l'agriculture vers un peu plus d'exigence et un peu plus de résilience par rapport aux crises et au contexte actuel.
Alors vous, vu que vous êtes créé depuis la fin des années 80, vous avez noué des partenariats avec pas mal de producteurs. Malgré tout, il y a un élément extrêmement étonnant en France. On ne produit pas assez de bio. On importe une énorme partie de ce que l'on doit manger. Alors dans le plan de relance, il y a un point extrêmement important pour doper le bio, mais depuis des années, on donne beaucoup d'aides, ça n'avance pas si vite. Comment vous expliquez qu'on n'arrive pas à manger du bio made in France ?
Je pense que, alors en tout cas, le choix de Biocoop, c'est vraiment le modèle coopératif. Donc de construire et construire une filière, ça prend entre 5 et 10 ans. Donc Biocoop le fait depuis 35 ans. Aujourd'hui, chez Biocoop, 80% de l'offre de fruits et légumes est française. On a 80% même de l'offre générale provient de la France parce qu'on a travaillé avec 20 groupements agricoles qui représentent 3200 fermes et on a co-créé avec eux ces filières françaises.
On reste ensemble ?
Oui.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et comme chaque jour, on est très heureux avec Elisabeth d'être avec vous sur Europe 1 jusqu'à 14h et avec notre grand patron du jour, Pierrick de Ronne, le patron de Biocoop. Alors, est-ce que vous connaissez Beaugrain, Pierrick de Ronne?
Je vais les découvrir avec plaisir.
Ils existent depuis 2008. À l'origine, Beaugrain, ils faisaient de la viande d'Aubrac qu'ils vendaient auprès des restaurants, des grands hôtels, de certains chefs. Le confinement est passé par là. Plus de travail, plus d'activité, c'est ce qui vous est arrivé. Bonjour Marie-Claire Poirier.
Bonjour Madame Sayag.
Vous êtes la fondatrice de Beaugrain et depuis le confinement, je continue l'histoire, vous avez décidé de vous orienter vers les particuliers.
Et du coup, le site internet, je crois, a été créé vraiment en 15 jours. Le 1er avril, il était en marche et c'est comme ça que l'histoire est partie ?
C'est ça, on l'a créé au 1er avril de cette année. Ça fait 12 ans donc, que nous livrons des bons produits aux restaurateurs, donc principalement des viandes. Nous, on a un ADN de producteur, puisque moi, je suis fille d'éleveur. Donc, j'ai grandi dans une ferme en Aubrac. Et j'ai commencé en distribuant donc, les viandes de mon père qui produit en Aubrac, donc des viandes bio. Et donc, nous distribuons ces viandes à des grands chefs. Ça fait donc 12 ans. À l'arrivée du confinement,
donc là, il n'y avait plus rien, plus d'activité.
Zéro, fermeture totale.
Fermeture totale. Alors là, comment ça vous est venu à l'esprit? Vous vous avez dit, finalement, on va passer des grands chefs, des hôtels aux particuliers. Il s'est passé quoi dans votre tête?
Déjà, on l'avait en tête quand même depuis quelques mois. On avait envisagé de faire profiter de nos très bons produits et de l'excellent sourcing qu'on fait auprès de divers producteurs français, d'en faire profiter des particuliers pour qu'ils aient donc des bons produits à un prix juste et puis livrés. Donc c'est un projet que nous avions depuis quelques mois.
Donc ça a germé et là, ça s'est imposé.
J'ai eu une chance immense, c'est que mon mari travaille à mes côtés et il nous a sorti un site en 15 jours. Par ailleurs, on avait aussi une chance immense, c'est qu'on avait notre propre réseau logistique et donc on a été en mesure de livrer quasiment du jour au lendemain partout en Île-de-France, gratuitement en moins de 12 heures.
Comment on arrive à se faire connaître? Parce que dans ce genre de transfert, c'est ça le plus compliqué. Vous êtes très connu du côté des grands chefs et autres, comme le rappelait Elisabeth, mais du côté des grands publics, Beaugrain, ça ne veut pas dire grand-chose. Comment vous avez réussi à capter justement ce grand public?
C'est un travail qu'on fait quotidiennement, aujourd'hui notamment. Grâce à vous sur Europe 1, mais en effet, on a besoin de se faire connaître. Ça, c'est en effet un apprentissage pour nous que de devoir aller au-devant de nos clients et par un biais qui n'est pas juste taper à la porte d'un chef et puis présenter les produits. Là, ça demande un effort de mise en forme, que les clients comprennent aussi notre message. C'est-à-dire,
j'imagine que même en termes de quantité, ça n'a strictement rien à voir. Quand on est un grand chef et qu'on prend, j'imagine, des kilos et des kilos de viande, Elisabeth ou moi, si on veut se faire une bonne côte de bœuf, on va commander, on est des gros mangeurs, mais un petit peu plus petit quand même.
Un petit peu moins quand même.
C'est pas le plus compliqué, en fait, dimensionner les produits, dimensionner une commande pour des particuliers, c'est vraiment pas le plus compliqué.
C'est quoi le plus compliqué ?
Le plus compliqué, c'est de se faire connaître. Ouais. En effet, c'est de pouvoir présenter les produits et se faire connaître.
Alors, est-ce que vous vous êtes remis à livrer les hôtels, les grands chefs depuis et en même quantité ?
Ça y est, on a recommencé la livraison aux professionnels depuis la fin du confinement. On a maintenu donc l'activité des particuliers que beaucoup d'autres professionnels comme nous ont décidé de cesser.
Ouais,
on a décidé de conserver cela.
Vous allez conserver ça, vous allez vous développer. Est-ce que finalement, donc là vous avez une vue sur votre activité auprès des professionnels et l'activité auprès des particuliers. Avec les particuliers, c'est pas la même démarche, c'est plus compliqué. Comment vous voyez les choses ?
C'est pas nécessairement plus compliqué, c'est juste un autre métier. On a une chance énorme, c'est qu'en fait, on peut capitaliser sur une livraison qui est faite soit chez les restaurateurs, soit chez les particuliers. Si on avait lancé un site e-commerce en voulant vendre des bons produits et en ne faisant pas payer la livraison, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire aujourd'hui pour fonctionner en e-commerce, on serait juste pas rentable. Là, l'intérêt, c'est que comme on avait déjà des clients distribués dans Paris, on a juste ajouter des clients à un même réseau et donc ça nous permet de le faire efficacement.
Sans perdre beaucoup d'argent.
Sans en perdre et en gagner,
en gagnant des clients et de la visibilité. Pierrick Derone, je rappelle que vous êtes le patron de Biocoop. On voit que des entreprises, pendant cette période de Covid, ont dû s'inventer de nouveaux débouchés et parfois même un nouvel avenir. Qu'est-ce que vous, par exemple, du côté de Biocoop, vous avez dû complètement repenser du jour au lendemain pour continuer à exister et continuer à pouvoir fonctionner normalement?
Alors sur le projet global, je vais paraître, c'est peut-être un peu un manque d'humilité, mais pas grand chose sur le projet. Nous, on n'a pas connu de rupture d'activité, donc c'est quand même un point important. Après,
est-ce que vous avez eu peur à un moment de manquer d'approvisionnement? Le ministre de l'économie le dit. Moi, ma grande peur à un moment, c'est qu'il n'y ait pas de sèche en France, qu'on n'ait pas de quoi alimenter le pays. Vous n'avez pas eu cette peur à aucun moment?
Bon, je ne suis pas au même niveau que le ministre, mais non, nous, au niveau de Biocoop, on n'a jamais eu cette peur-là. C'était plutôt le comportement d'achat soudain des consommateurs qui a fait qu'on s'est retrouvé sans papier toilette, sans farine, sans levure, sans œufs. Mais les volumes étaient présents et on pouvait rassurer. En tout cas, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est vraiment le volet entrepreneurial. Mmh. Et on a vu, par contre, dans les magasins, les gérants, les dirigeants des magasins, trouver plein de systèmes d'aide, de solidarité avec la production. Et c'est ce que je remarque avec Beaugrain aussi, oui. C'est ce côté dynamique de l'entrepreneuriat et aussi entrepreneuriat social, c'est-à-dire avec les valeurs qui sont posées derrière le projet. Et c'est hyper intéressant et encourageant pour l'avenir.
Ces entreprises qui se sont adaptées comme chez Beaugrain. Merci à vous, Marie-Claire Merci Poirier, beaucoup. D'être venue nous présenter Beaugrain.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on est avec Pierrick Doron, le président de Biocoop, hein, qui est avec nous jusqu'à 14h. On parle de l'évolution de la consommation après le confinement et notamment de l'évolution de notre consommation de bio. Alors jusque-là, vous étiez quasiment les pionniers, vous faisiez en tout cas partie des pionniers, vous étiez un réseau spécialisé. Mais voilà-t-il pas que les Leclerc, les Carrefour, les Casino, et on pourrait tous les citer, ont des rayons bio quasiment aussi grands que vos magasins. Ce sont eux, aujourd'hui, vos vrais concurrents du côté de Biocoop.
Ah oui, et je dois vous avouer que c'est plutôt positif, c'est-à-dire d'un certain côté, ils vendent aussi les produits bio, et c'est ce qu'on a cherché à faire depuis 35 ans, c'est-à-dire développer l'agriculture biologique. Après, la grande question qu'on a, c'est quel projet de société il y a derrière le bio. C'est pas un produit comme les autres, en tout cas pour nous, en tant que spécialisés, c'est pas un produit comme les autres. Et donc, on observe ça pour voir si y a bien derrière tous les engagements vis-à-vis notamment du monde agricole. Je cache pas que les questions de prix qui vont se profiler et les engagements sur les prix de la grande distribution m'inquiètent un petit peu.
C'est ça, parce que la grande distribution va faire bien évidemment baisser les prix du bio. Ils vont tordre un petit peu ce que peuvent avoir les producteurs. Et vous allez apparaître comme hors de prix. C'est-à-dire faire son plein quand on est une famille chez Biocoop pour toute la semaine, ça coûte plus cher que d'aller chez Carrefour ou chez Leclerc où on peut mixer avec un peu de produits, pardonnez-moi l'expression, normaux. Est-ce que vous risquez pas d'être complètement marginalisé ?
Non, on risque pas. On travaille sur des prix justes, c'est-à-dire que il y a.
Mais chacun dit ça.
Alors chacun dit ça, oui, mais nous, donc ça c'est bien notre métier, nous, Biocoop, de définir ce qu'est notre prix juste et les valeurs qu'on crée. Ensuite, ça fait aussi du bien à la concurrence. Nous, ça nous bouge aussi par rapport à une certaine forme d'efficacité, d'efficience. Il y a des économies à faire, des économies d'échelle, donc on va y travailler.
Typiquement, mais vous allez chercher à baisser les prix pour rester concurrentiel avec la grande distribution, c'est ça que vous nous dites.
Mais pas les prix à n'importe quel prix.
Ça veut dire quoi concrètement ?
Pas au détriment du producteur. On sait aujourd'hui que la grande distribution a construit son projet autour du prix. Et la variable d'ajustement, c'est le producteur.
Alors, vous allez être obligé de vous réinventer aussi face à cette concurrence. Je crois que vous avez lancé des boulangeries, des boucheries, des corners chez les producteurs partenaires. Est-ce que ça va se poursuivre dans cette politique de réajustement du prix ?
Oui, ça se poursuit dans le sens où on veut valoriser l'artisanat. On pense que le bio doit être associé au gourmand et au plaisir de retrouver des artisans nous découper de la viande bio, de proximité, équitable. Après, on se rend compte qu'on était peut-être un petit peu en avance pour monter des boucheries et des boulangeries indépendantes. Moi-même, je suis sociétaire à Annonay en Ardèche. Je suis gérant d'une SCOP, coopérative de salariés. On vient d'ouvrir une boulangerie à coller au magasin, donc je suis prêt moi-même à faire ce type de pari, mais en tout cas les boulangeries, les boucheries se développent dans les magasins.
Voulez dire, on avait un grand projet, la concurrence est tellement là, il ne faut pas se disperser et on va y aller doucement même si on croit à cela, c'est ça si je traduis ?
Non, pas du tout, c'est pas du tout ça, non, on ne se recentre pas sur le commerce de base, au contraire on développe, mais dans les magasins.
Alors justement, se développer, la chaîne Bio C'est Bon, qui est une des grandes chaînes du côté du monde du bio, est en redressement judiciaire. Ça a été confirmé aujourd'hui. Les grands noms sont là, Carrefour, Casino veulent les racheter. Mais vous aussi, Biocoop, pourquoi vous voulez racheter Bio C'est Bon ?
On veut le racheter parce que on a une responsabilité. On s'estime être responsable en tant que leader du marché spécialisé pour que Bio C'est Bon reste dans le giron des spécialisés. Et soit des magasins, que les magasins restent pour défendre une bio exigeante. Donc on estime que Biocoop doit se positionner. C'est un peu contre-intuitif par rapport à notre modèle de développement, mais on l'assume pleinement et notre offre est crédible.
Vous ne voulez pas que Bio C'est Bon aille se perdre dans les rayons des Leclerc et des géants ? Vous voulez qu'ils gardent un petit peu le même état d'esprit que ce que vous avez ? Vous voulez un peu les protéger un peu en quelque sorte ?
En tout cas, c'est l'idée que effectivement, quand un marché grandit comme ça, il y a des rachats, etc. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent là. Et donc c'est important que Biocoop, ou en tout cas des réseaux
donc
comme
vous
Biocoop, se positionnent.
Oui.
Vous êtes positionné, vous restez surtout avec nous à Pierrick Dehaene, le patron de Biocoop et notre invité jusqu'à 14h dans cette France Bouge.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, après les rayons des supermarchés, on s'installe à la table du petit déjeuner, tiens Emmanuel, et du goûter, parce que notre saga du jour, eh bien, c'est Brioche Pasquier.
Alors, Brioche Pasquier, une marque bien connue, mais qu'est-ce que ça vous inspire si on vous dit, tiens, Brioche Pasquier? Charlotte Barrican de l'équipe de La France Bouge est allée vous poser la question dans les rues de Paris.
Pasquier, c'est les biscottes.
Oui, le pain brioché, oui, voilà ce truc.
J'ai l'impression d'avoir toujours eu dans mes placards, depuis que je suis petit, mes enfants aussi. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai toujours chez moi.
Ouais, ça c'est bon, oui, ça je connais. Alors, bon, ils font des pains en burger, si je me trompe. Ça je les mange, voilà, je sais qu'il y en a chez Lidl.
Pasquier, moi je pense à mes grands-parents où je faisais des tartines à la crème de marron. C'est spécialité de ma région. Et c'est ça que ça m'évoque, voilà.
Je trouve qu'il y a trop d'emballages, par contre, dans les pasquiers. Vous ouvrez un des paquets et vous avez encore les emballages unitaires, par exemple, pour le pain au chocolat. Bah, je trouve que c'est trop.
Pasquier, oui, je l'ai déjà goûté, mais je ne suis pas grand fan. Je préfère acheter directement chez le boulanger.
Pasquier et la brioche, hein. Je consomme leur brioche, leur pain au chocolat et leur croissant, régulièrement, tous les matins, moi.
Oui, là, les brioches, les enfants en mangent aussi. Ouais. Par contre, j'étais aussi trop vieux pour que ça devienne une madeleine de Proust, mais pour mes enfants, ça le sera, ouais.
Pour mes enfants, ça le sera. La brioche Pasquier. Bonjour Pascal Pasquier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Europe 1. Vous n'êtes pas dans notre studio. Vous êtes dans votre bureau à Les Cerquets, au sud du Maine-et-Loire. C'est au sein du siège historique. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de Brioche Pasquier. Brioche Pasquier, c'est né en 1974. Aujourd'hui, plus de 3500 collaborateurs. Mais tout a commencé, et ça on ne le savait pas en préparant cette émission avec Emmanuel Duteil, tout a commencé dans la boulangerie familiale.
Tout à fait.
Comment ça s'est passé? Comment à un moment donné vous avez dit, bon, la boulangerie c'est bien, mais on va un petit peu s'industrialiser et on va les mettre dans des petits paquets nos brioches?
Bon, disons que ça s'est passé très simplement parce qu'à l'époque, les choses peut-être se faisaient encore plus simplement qu'aujourd'hui. Et voilà, ça a été au décès de notre père qui était boulanger dans ce petit village où nous sommes restés parce que nous sommes très attachés à cet ancrage territorial. Eh bien, la décision a été de dire qu'est-ce qu'on fait de cette petite... Boulangerie,
oui.
Et mes frères, parce que je suis le plus jeune, mes quatre autres frères...
Cinq frères, autour de la brioche pasquier.
Nous sommes cinq frères dans l'entreprise, et mes quatre autres frères, la décision a été de dire, eh bien, on va continuer, je dirais, cette activité de cette boulangerie, avec une volonté, dès le départ, de dire, eh bien, on va aller proposer cette fameuse brioche que fabriquait notre père, eh bien, dans... Les surfaces et les supermarchés et les premiers hypermarchés qu'on voyait naître un petit peu partout.
On est dans les années 70.
Dans notre région. On est dans les années 70, effectivement.
Pascal Pasquier, moi j'ai lu en préparant cette interview également avec Elisabeth que vous dites avoir gardé la même recette traditionnelle et quasiment le même process industriel depuis le début. Pourtant, moi je suis allé acheter ce week-end et le pire c'est que c'est vrai, une brioche Pasquier pour préparer cette interview. On ne se dit pas que c'est la brioche qu'on trouve dans la boulangerie du coin du sud du Maine-et-Loire au Cerqueux quand même.
Alors écoutez, moi par rapport à cela, c'est bien sûr qu'il y a eu des évolutions. Maintenant, il y a des fondamentaux qui ont été préservés et ça, nous sommes très attachés. Je vais vous en citer un, c'est par exemple que tous nos produits de brioche sont fabriqués avec du levain et du levain naturel. Mmh. Et qui était le levain que fabriquait et faisait notre père quand il a démarré sa boulangerie dans ce petit village. Et ça, nous l'avons préservé. Et vous savez que la complexité d'un levain, c'est le transmettre quel que soit le lieu où on fabrique. Et bien ça, nous avons tenu absolument à préserver ça. Depuis le début, notre brioche est fabriquée sans colorant, sans conservateur. Donc ça, c'est autant d'éléments que nous avons voulu garder. Troisième élément que je peux vous en dire d'autres, c'est le temps de fabrication. Ce qu'on appelle fabriquer une brioche, c'est un produit qui est fermenté, qui a besoin d'être reposé en cuve pour prendre toute sa qualité gustative. Eh bien, le temps de fabrication entre ce que faisait notre père quand il était dans sa boutique et dans sa boulangerie et puis ce que nous faisons aujourd'hui, il n'a pratiquement pas ou peu évolué et surtout pas diminué au détriment de l'aspect gustatif. Donc voilà autant d'éléments sur lesquels on a tenu à préserver ça.
Alors vous avez su traverser les époques avec le pitch qui a révolutionné l'offre du goûter en 1986. Alors on l'entendait aussi dans le micro-trottoir. territoire de Charlotte Barrican. Beaucoup d'emballages dans les brioches Pasquier. Comment vous allez réduire tout cela? Est-ce que vous travaillez là-dessus?
Bien sûr.
Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup.
Alors, c'est vrai, c'est quelque chose, et moi je l'entends complètement, et nous sommes très sensibles à ça. Il faut savoir que l'emballage a été un élément, la brioche est un produit, et pour parler de celui-là, mais on peut parler de la biscotte, voire même de la pâtisserie, ce sont des produits entre guillemets fragiles, qui peuvent s'écraser, qui peuvent se casser, etc. Et que l'emballage a été un élément, à un moment donné, déterminant pour préserver le produit en linéaire et pas avoir quelque chose pour le consommateur quand il arrive chez lui, d'avoir un produit qui ne ressemble pas à ce qu'il a acheté dans son rayon. Cela dit, tenant compte du contexte, et c'est vrai, c'est quelque chose, bien, nous sommes en train de travailler et faire en sorte que nos emballages, eh bien, on puisse travailler d'abord et prioritairement, c'est sur ce côté éco-conception, de recyclabilité, faire en sorte que à travers cela, on puisse mener à la fois, je dirais, la protection et faire en sorte qu'on a un produit toujours agréable à manger, propre et pas écrasé, mais en même temps, prendre en compte tous les aspects environnementaux que vous connaissez, qu'on connaît tous aujourd'hui.
Alors, vous l'avez entendu sûrement depuis le début de notre émission, hein, Pascal Pasquier. Notre invité aujourd'hui, c'est Pierrick Derone, le président de Biocoop. Je crois que vous distribuez un tout petit peu chez Biocoop parce que vous avez une toute petite partie de votre activité qui est bio.
Alors effectivement, quand vous dites un petit peu, moi je pense que c'est pas qu'un petit peu, et puis que avec la société Biocoop, eh bien il y a des relations commerciales qui se passent très bien entre les deux entreprises, et qu'effectivement nous avons toute une gamme, notamment en biscottes, sur la marque Borsa que nous fabriquons pour
sous une autre
pour les
marque,
magasins
alors.
Bio.
D'accord.
C'est sous une autre marque qui a été une volonté de répondre pour les magasins bio.
Pierrick Derone, vous êtes le président de Biocoop. Est-ce que des groupes industriels créent des produits spécifiquement pour pouvoir entrer dans les rayons dans vos supermarchés bio?
Alors pas à ma connaissance, création spécifique, c'est plutôt souvent des rachats de marques ou autres. En tout cas, on est en discussion aussi avec des groupes pour les amener aussi à aller plus vers le bio. Donc ça fait aussi partie.
Vous les accompagnez, vous les conseillez.
Ouvrir parfois les portes des magasins Biocoop, c'est aussi une manière de développer le bio.
Mais est-ce que ce serait un moyen d'événementialiser vos magasins, d'avoir des produits qui ne seraient disponibles que chez Biocoop?
Ah bah, l'enjeu est de garder les marques historiques. Borsa est une marque historique. Il y a plein de marques historiques et affiliées au réseau spécialisé. Donc, on a vraiment la volonté de les conserver dans les magasins spécialisés et pas que chez Biocoop, aussi chez Naturalia et La Vie Claire.
Oh bah, c'est bien d'avoir cité les concurrents. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Pascal Pasquier. Vous êtes un des fondateurs de Brioche Pasquier. Un grand merci d'avoir été en ligne depuis votre usine des Cerqueux dans le sud Maine-et-Loire avec nous aujourd'hui dans cette France Bouge.
Et c'est la fin de ce dossier du jour. On l'a vu, hein, les Français se bougent, qu'ils soient industriels, dans la grande distribution ou dans la livraison de produits. Ce qui prime le plus aujourd'hui, c'est la qualité, et on le voit chaque jour dans La France Bouge. Les Français se mobilisent et innovent.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et on est toujours avec Pierrick Derone qui va maintenant mettre son costume de coach. Est-ce que vous aimeriez aussi mettre votre tenue de tennis maintenant?
Par loisir.
Et ben c'est déjà pas mal, parce que on va parler maintenant d'une application qui permet de trouver le cours et le partenaire le plus proche de chez nous.
Et c'est le moment des trophées. La France Bouge avec vous, Arona Becerra. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Slice App. On dit slice, hein, comme quand on veut une tranche de pizza.
Exactement.
Slice App. Hein.
Comme quand on fait un slice.
Et quand on fait un slice au tennis, c'est une application pour mettre en relation des joueurs de tennis d'un niveau différent. Nous, on a adoré à La France Bouge, mais vous allez devoir convaincre notre patron du jour, Pierrick Derone, le président de Biocoop, et tous nos auditeurs. Donc c'est parti, vous avez 1 minute 30.
Alors la première intuition de Slice m'a été soufflée par un ami, avec qui j'avais pour habitude de jouer au tennis. Le problème, c'est qu'il était moins fort que moi. Mais c'était mon ami, donc j'acceptais de jouer contre lui. J'ai beaucoup joué contre lui. Le problème, donc, comme je l'ai dit, c'est qu'il était moins fort que moi. À ce moment-là, moi, j'ai décidé de trouver des excuses au bout de la 20e fois. Les excuses ont commencé à s'accumuler, il a fini par comprendre. Et à un moment, il m'a dit, j'ai bien compris, je te donne de l'argent. Donc, moi, je lui ai dit, comment ça? Il fait, moi, je connais pas beaucoup de joueurs mieux classés. Je progresse à vue d'œil, donc je veux pas qu'on s'arrête là. Je veux continuer. pour moi, à ce moment-là, ça a fait tilt. Donc évidemment, je n'ai pas pris l'argent, mais j'ai pris l'idée. Et donc, de cette idée est née Slice, qui est une application mobile qui met en relation des joueuses et des joueurs de tennis à proximité, de niveaux différents, et qui gratifie cette relation en fonction de l'écart de niveau. C'est-à-dire que le joueur le moins bien classé, qu'on appelle le challenger, va gratifier le joueur le mieux classé, qu'on appelle le slicer, et les gratifications vont de 6 à 15 euros en fonction de l'écart de classement. Donc en fait, Slice permet de progresser efficacement en tant que challenger, mais également de rentabiliser son niveau quand on est slicer. Donc ça facilite la rencontre entre joueurs de niveaux différents, ce qui n'est pas si fréquent dans le tennis. Et sur Slice, on est évidemment slicer et challenger. On peut progresser et faire progresser.
Voilà. Et ben voilà, c'est le pitch. Bien. Bravo déjà pour ce pitch et cette idée. Pierrick Doron, patron de Biocoop, quelle est votre réaction à ce besoin qui finalement devient une idée industrielle ?
Bah, moi, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de mettre en relation les gens, toujours. Mettre en relation pour s'améliorer. Voilà. Donc, je trouve l'idée très, très intéressante.
Alors, Aaron Abessera, cette application n'est pas encore rentable, hein, puisque vous venez nous la présenter à la France Bouge. Donc, c'est que vous avez des besoins. Quels sont vos besoins immédiats aujourd'hui ?
Je dirais évidemment de l'argent pour développer l'application.
Des fonds ?
Des fonds pour développer toutes les idées qui gravitent autour de l'appli, comme par exemple... transposer cette idée à tous les sports de raquettes.
Combien il vous faudrait aujourd'hui ?
C'est difficile de donner un nombre, mais si je devais en donner un, ce serait à peu près 500 000 euros.
C'est ce dont vous auriez besoin, parce que là, ce que vous nous dites, c'est le tennis, vous y avez pensé parce que c'était votre passion première, mais ça peut s'élargir au badminton, au tennis de table
Tous les sports à système de classement.
D'accord, donc c'est votre objectif là, à court terme, si vous deviez réussir à trouver de l'argent.
Développer l'application évidemment dans le tennis, parce que c'est le milieu que je connais le mieux, mais évidemment le transposer à d'autres sports, c'est envisageable et c'est dans les projets.
Et il y a obligatoirement une version payante, entre guillemets, pour le joueur. À un moment, il n'y a pas l'idée aussi juste, parce que ce qui est compliqué quand on arrive dans une grande ville, quand par exemple on est étudiant, qu'on déménage, c'est tout simplement de trouver des partenaires de tennis. Est-ce qu'il n'y a pas une première étape, je ne sais pas, une espèce de mode un peu gratuit qui permettrait de trouver juste, mais peut-être parce que je suis très intéressé par la chose, mais de trouver des partenaires de tennis.
Au début de l'application, on offrait 8 euros qui permettaient de défier des joueurs, donc jusqu'à deux classements au-dessus du sien. Donc là, actuellement, ce n'est plus le cas. Donc, il faut gratifier son partenaire quand on est moins bien classé. Mais l'avantage de Slice, c'est aussi le terrain. Quand on n'en a pas, on peut accéder à des joueurs qui en ont. Ce qui permet en fait de se faire inviter par un système d'invitation interne à chaque club, dans un club, gratuitement. On a eu le week-end dernier le cas d'un joueur qui a joué en plein Paris, sur terre battue, pour 12 euros, qui est le prix de la gratification et pas le prix du cours. Contre un joueur en plus fort que lui.
Vous parliez de Paris, vous êtes présent partout en France, pour l'instant seulement Paris ?
Non, on est présent partout en France. L'application est disponible, c'est un système de géolocalisation, donc c'est partout.
Ça s'appelle Slice. Merci à vous, Aaron Abessera, et merci. Donnez-nous de vos nouvelles, parce que c'est
on aime bien dans la France Bouge avoir effectivement des nouvelles de tous nos invités pour savoir comment ils continuent de faire bouger la France. Et bien justement, si vous avez un projet, si vous avez envie de le tester comme ça en direct sur Europe 1 devant un grand patron, et bien c'est très simple, il suffit de nous écrire sur notre boîte mail. e1-lafrancebouge@europe1.fr.
La France Bouge, dernière partie de votre émission avec Ma vie au travail. Nous sommes toujours avec notre grand patron du jour, Pierrick Doron, président de Biocoop. Et avec vous, bonjour Séverine Klein.
Bonjour.
Vous êtes la gérante de la société Azae Rouen. C'est une société de services à la personne. Vous gérez 145 salariés, dont 70 personnes qui, pendant le confinement, sont toujours restées sur le terrain. Vous n'avez jamais cessé de travailler. Et au moment du confinement, on le sait tous, les transports ont été supprimés. Résultat, vous avez trouvé une solution, c'est le vélo.
Tout à fait.
Vous avez mis en place une flotte pour votre entreprise ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on a été obligé d'avoir une continuité de service pour nos bénéficiaires personnes âgées. Et nos auxiliaires de vie sur le terrain ont été confrontés au manque de transports en commun qui se sont brutalement arrêtés, qui ont mis du temps à revenir en place et il fallait bien les aider. Donc j'ai fait appel à Hélocycle et Monsieur Bisson pour mettre en place des vélos électriques.
Donc ils ont été mis en place en 48 heures, faut le dire quand même. Pendant cette période de crise, vu le contexte qu'on a tous connu, vous en 48 heures, 7 vélos pour vos salariés.
Oui, c'est ça. C'est vrai que le prestataire Hélocycle a été ultra performant Et pour un contrat qui, à la base, devait durer juste la durée du confinement, a été pérennisé dans le temps parce que ça a été un vrai succès auprès des collaborateurs.
Et il n'y a pas eu d'appréhension de la part de certains collaborateurs qui auraient pu ne pas se sentir très, très à l'aise à vélo, en tout cas pour travailler à vélo tout le temps pour faire leurs différents rendez-vous ?
Si, on a des collaborateurs qui pour le coup sont un petit peu réfractaires à ce mode de transport. Maintenant, on a une flotte assez réduite hein, qui couvre pas la totalité des intervenants et donc ça a été mis à disposition pour les volontaires.
Pierrick de Rome, président de Biocoop, une flotte de vélos électriques pour les magasins Biocoop, pour tous vos salariés, vous en pensez quoi?
C'est une formidable idée. Il y a quelques magasins
vous l'avez vu, il y en a certains qui l'ont mis en place.
Oui, qui ont mis certains des vélos à disposition.
Chez vous, ça s'est pérennisé aussi, c'est-à-dire que quand on a tenté l'aventure, comme là du côté de Rouen, ça se poursuit.
En tout cas, ça se diffuse un petit peu, donc en tout cas, c'est intéressant de voir la pérennité.
En tout cas, on le voit à chaque fois, la crise a créé des besoins, a créé des idées, et c'est ça, la France qui bouge.
Et on repassera un petit coup de fil un jour à Séverine Klein, parce que faut le dire à nos auditeurs, on a été un petit peu trop gourmand et on est un petit peu en retard en cette fin d'émission.
C'est vrai. Mais en tout cas, merci à vous, Séverine Klein, dirigeante de la société d'aide à domicile à Rouen, hein, qui a équipé ses salariés. Merci à vous, Pierrick de Rome. C'est la fin de votre émission.
C'était un plaisir.
Vous
merci
êtes
beaucoup.
Le président de Biocoop.
Et on se retrouve demain 13h pour une nouvelle France Bouge. On parlera de quoi, Elisabeth ?
On va parler du sport. Hein. Vous savez, c'est la rentrée. On est tous en train de prendre d'excellentes résolutions. Alors pourquoi ne pas concilier travail et sport en entreprise ? On vous dira tout demain.
Allez, on prend un petit peu de repos. À demain 13h.
À demain. Et juste après le point sur l'actualité, on retrouvera Christophe Ondelatte.